Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs. Comment allez-vous? Je suis très fière de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, samedi le 12 janvier 2019, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les commentaires et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie pour tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Les Journaux. On commence par le titre. Le chef de la BNPB appelle à la plantation d'arbres durs dans la zone de la pente. Le ministère du Commerce cible l'augmentation des exportations de 7,5% en 2019. L'Indonésie est le 9e pays le plus sûr au monde. Denpasar est l'une des 10 villes les plus saines du monde. L'Indonésie a remporté le prix de Best Destination aux Pays-Bas. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a proposé aux Nations Unies de créer un centre de protection de l'environnement côtier. Chers auditeurs, voici les journaux complets. Le chef de l'Agence nationale pour la gestion des catastrophes, ou BNPB, Denis Monardo, a demandé aux habitants vivant au bord des pentes à planter des espèces de plants vivaces qui peuvent empêcher les glissements de terrain. Cela a été dit lors de sa visite vendredi sur le site du glissement de terrain dans le village d'Adat Sinarsmi, le district de Cisolok, Sukabumi, Java de l'Ouest. Selon lui, les personnes vivant sur les pentes ne devraient pas planter de légumes, mais de plantes vivantes. Il a également encouragé les efforts systématiques visant à interdire aux personnes de planter des espèces de plants susceptibles de provoquer des glissements de terrain dans les collines et les montagnes. Nous voyons que la pente est très raide. Selon les règles, il est interdit de planter des légumes. Mais parce que cela n'a pas été contrôlé, peut-être la communauté ne comprend pas et elle devait être victime. À l'avenir, il doit avoir des efforts durs, systématiques et des efforts sérieux pour interdire les planter de légumes sur des pentes, non seulement dans cet endroit, mais dans de nombreuses régions. Il n'est pas seulement à Java de l'Ouest, mais aussi à Java centrale et Java de l'Est. Il doit avoir une solution pour remplacer le type d'arbre. Le responsable de l'Agence nationale pour la gestion des catastrophes, ou BNPB, Denis Monardo, a également déclaré que BNPB et plusieurs autres composants, entre autres des organisations non gouvernementales, ont envoyé des semences de plants, les types de plants vivaces. Certains types de plantes vivaces données à la communauté comprennent les plantes Puspa, Rasamala et Damar. En outre, il existe également des semences d'arbres fruitiers. Denis Monardo encourage également les gouvernements régionaux à pouvoir restaurer les fonctions de conservation, en particulier dans les zones de conservation qui ont changé de fonction en terre agricole. Selon lui, la zone de conservation ne devrait pas être convertie qui peut causer une vulnérabilité aux catastrophes. Le ministère du Commerce cible l'augmentation des exportations de 7,5% en 2019, ce qui signifie que ce chiffre est proche de la réalisation des exportations qui a été atteinte pour la période de janvier et novembre 2018, à savoir 7,47%. Le ministre du Commerce, Enggar Tiesto Lukita, a déclaré récemment, lors d'une conférence de presse à Jakarta, que ce chiffre était réaliste en considérant de la condition économique mondiale qui est hantée encore par les guerres commerciales. Bien que cela n'ait pas eu d'impact direct sur l'Indonésie, la guerre commerciale a eu un impact sur les pays de destination des exportations indonésiennes. Pour améliorer les résultats à l'exportation, en plus de cibles de marchés traditionnels tels que la Chine, les États-Unis, le Japon, la Malaisie, les Philippines, la Corée du Sud et la Thaïlande, le ministère du Commerce était sérieux de pénétrer le marché d'exportation vers les pays non traditionnels. L'Indonésie est classée 9e pays le plus sûr du monde selon le rapport sur l'ordre public de Gallup en 2018. Dans une déclaration écrite récemment à Jakarta, le ministre du Tourisme Arif Yahya a apprécié ses réalisations comme un effort conjoint, y compris la performance de la police. En termes de sécurité, il a été prouvé que l'Indonésie avait empoché un score de 89 et qu'elle occupait la 9e position en tant que pays ayant le plus haut niveau d'ordre et de loi au niveau supérieur au Danemark et inférieur au Canada. Le ministre du Tourisme, Arif Yahya, a déclaré que Singapour occupait la première position avec un score de 97 suivi de la Norvège, de l'Islande et de la Finlande qui se partageaient chacun un score de 93. Il a particulièrement apprécié les performances de la police nationale indonésienne dans l'amélioration de la sûreté et de la sécurité en Indonésie. La ville de Denpasar est la seule ville d'Indonésie à inclure dans la liste de 10 villes les plus saines du monde d'après l'évaluation réalisée par Travel Supermarket sur la base de divers aspects de l'évaluation. La responsable de relations publiques et du protocole de la ville de Denpasar, Dewa Gede Rai, a déclaré à Denpasar que Denpasar se classait au 9e rang après Lisbonne, au Portugal avant Buenos Aires, en Argentine. La première position a été occupée par la ville de Paris en France. Il a mentionné plusieurs aspects évalués, sont le nombre de parcs ou d'espaces verts, le nombre de gymnastes ou de centres de conditionnement physique. Pendant ce temps, Umar Ibnu Al-Khattab, chef du représentant du médiateur indonésien de Bali, a déclaré que c'est une réalisation fière pour le gouvernement municipal et pour le public de Denpasar et même pour la fierté de l'Indonésie. L'Indonésie a reçu le prix Reskrok en tant que meilleure destination, qui est le premier prix pour l'Indonésie depuis sa première édition en 2011. Norman Effendi, le ministre conseiller de fonction économique de l'ambassade d'Indonésie à La Haye, a dit récemment à Antara, Londres, que le prix a été remis à Networking and Gathering Event Indonesia le 10 janvier lors de la foire de tourisme Vakantieboer 2019 à Utrecht aux Pays-Bas. L'exposition Vakantieboer 2019 est la plus grande exposition touristique à Benelux. Elle est visitée par des touristes du Benelux et aussi d'autres pays européens qui souhaitent passer leurs vacances en 2019 en visitant des destinations touristiques uniques dans le monde entier. Lors de l'exposition qui dure jusqu'au 13 janvier, le ministère indonésien du tourisme a coopéré avec 21 industries du tourisme composées de 11 agences de voyage, 10 hôtels, des organisations de tourisme et Garuda Indonesia. Le ministre de l'Environnement et des Forêts, ou en Indonésie KLHK, Siti Nurbaya, a proposé la création d'un centre de renforcement des capacités pour les initiatives régionales sur la protection du milieu marin contre les activités terrestres au sein du Programme des Nations Unies pour l'environnement. La ministre Siti Nurbaya a déclaré récemment à Jakarta que la création du centre de développement des capacités était importante parce que d'autres pays sont également confrontés à des problèmes d'environnement marin. La proposition de création du centre de renforcement des capacités d'initiative régionale a été transmise aux directrices de l'Organisation Nations Unies pour l'environnement dans la région Asie-Pacifique, Deschen Sering, quand elle a visité le site de récupération des mines de PT Aman Mineral Nusa Tenggara à l'ouest de Sumbawa, Nusa Tenggara de l'Ouest. Siti Nurbaya a déclaré que l'Indonésie s'était engagée à réduire de 70% de déchets, en particulier les déchets plastiques, en 2025. En outre, l'Indonésie a également lancé un plan d'action national visant à réduire les déchets plastiques à travers diverses activités menées par toutes les parties prenantes. Chers auditeurs, c'est tout le journal d'aujourd'hui.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente de diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. Tout d'abord, l'info de Jayapura, Papouasie. L'Agence centrale de la statistique, BPS, de la province de Papouasie a déclaré que plusieurs 10 villages de la région étaient inclus dans la catégorie indépendante, bien que l'indice de développement des villages, IPD, de la plupart des régions soit encore à la traîne. Le responsable de la division des statistiques sociales de la BPS pour la province de Papouasie, Bagas Susilo, à Jayapura a déclaré mercredi que dans la province de Papouasie, presque toutes les dimensions de la compilation de l'IPD avaient augmenté malgré les différentes augmentations, à l'exception du service de base qui avait diminué. Selon la collecte de données sur le potentiel de villages de BPS, pour 2018, la province de Papouasie compte plus de 5000 régions villageoises, 576 sous-districts et 29 régions ou villes. La plupart des villages sont situés sur les pentes ou les pics montagneux, tandis que d'autres sont situés dans les plaines et les vallées. Ensuite, l'info de Majalengka, Jawa West. La police du recours Majalengka, Java Occidental, a livré 77 loris lents javanais au Centre de conservation des ressources naturelles BKSDA de Java West, qui a été confisqué aux collectionneurs des animaux protégés. Comme indiqué précédemment, l'unité des enquêtes criminelles de la police régionale de Majalengka a effectué mercredi une attaque sur un abri protégé pour la faune sauvage en arrêtant deux suspects. La police a recueilli des preuves de 79 espèces rares de l'orilang de Java ou de Nycticebus javanicus. La KBP Mariono, chef de la police de Majalengka, a déclaré jeudi que le nombre de lorilang remis à BKSDA de Java West était de 77, car deux autres sont morts de stress après avoir été confisqués à deux suspects. Pour éviter de mourir ou de stresser l'animal, il le remettait immédiatement à ceux qui comprenaient en prendre soin. Didin Sharifuddin, chef de la section de la conservation régionale de Tasikmalaya 6 de Tasikmalaya, Java Occidental, a déclaré que le lorilang javanais serait remis au Conseil international de sauvetage des animaux. La dernière info vient de Denpasar, Bali. La ville Denpasar est la seule ville d'Indonésie à figurer parmi les 10 villes les plus saines du monde d'après l'évaluation de Travel Supermarket. Le chef des relations publiques et du protocole de Denpasar, Dewa Gede Rai, à Denpasar a déclaré jeudi que l'Indonésie se situait au 9e rang après Lisbonne au Portugal et avant Buenos Aires en Argentine. La première place est occupée par la ville de Paris en France. Certains aspects de l'évaluation concernent le nombre de parcs ou d'espaces verts, le nombre de gymnases ou de centres de conditionnement physique. Travel Supermarket évalue également le nombre de spas, de studios de yoga et de studios de pilates trouvés dans les villes évaluées. De plus, l'alimentation constitue également un aspect important de l'évaluation en dressant une liste de 10 villes les plus saines au monde. En ce qui concerne l'alimentation, Travel Supermarket évalue le nombre de magasins d'aliments sains et de restaurants offrant des options végétaliennes dans chaque ville. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 12 janvier. Nous commençons avec le renversement du sultan de Zanzibar. En 1964, une révolution sanglante a éclaté à Zanzibar, à une époque marquée par des troubles politiques. Les troubles politiques ont poussé plusieurs résidents noirs à renverser le sultan de Zanzibar, Jamshid bin Abdullah al-Said, le 12 janvier 1964. Au cours de la révolution qui a nuancé l'anti-ethnique, religion, race et intergroupe, au moins 20 000 personnes d'ascendance arabe et indienne ont été tuées. Un autre grand nombre a été forcé de quitter Zanzibar. Le 26 avril 1964, Zanzibar a rejoint le Tanganyika en Afrique continentale pour former la Tanzanie. Ensuite, le Conseil révolutionnaire iranien a été créé. Le 12 janvier 1979, dans une situation très cruciale, à savoir lorsque les États-Unis ont apporté un soutien total et à tous égards au régime de Shah Pahlavi, l'imam Khomeini a donné à ses partisans des instructions très courageuses sous la forme d'une campagne appelée « Conseil révolutionnaire ». Ce conseil a été formé pour devenir un forum de coordination entre groupes révolutionnaires, de concentration du programme de la révolution et de tâches de former un gouvernement provisoire. Le 12 janvier 2010, le séisme a tué 200 000 personnes en Haïti. Le séisme en Haïti s'est produit avec une puissance de 7 sur l'échelle Richter et l'épicentre situé à 16 km de Port-au-Prince à 4h53 heure locale. Le séisme a été le séisme le plus puissant qui ait secoué Haïti pendant plus de 200 ans. Il a ensuite renversé le palais présidentiel et les maisons vallonnées, qui comptent environ 9 millions de personnes, à leur besoin de l'aide internationale. Le tremblement de terre qui a secoué Haïti a été la pire catastrophe vécue par les Nations Unies. Le bilan du séisme dévastateur est estimé à 50 000 à 100 000 personnes. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Cinta ku terenggut tak terselamatkan.
Voice of Indonesia.
Voilà la chanson intitulée Tanpa Kekasihku, ou en français Sans mon amour, chantée par Agnes Monica. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site www.voinews.id. Et voici mon Indonésie intitulé L'industrie manufacturière nationale contribue au produit intérieur brut le plus élevé à l'ASEAN.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en titre L'industrie manufacturière nationale contribue au produit intérieur brut PIB le plus élevé à l'ASEAN. L'Institut de recherche économique Trading Economics a lancé que le produit intérieur brut PIB indonésien issu du secteur manufacturier au troisième trimestre de l'an 2018 s'élevait à 39,7 milliards de dollars américains. Ce chiffre est le plus important en région de l'ASEAN. La Thaïlande occupe la deuxième place, suivie de la Malaisie et de Singapour. Cette incertitude mondiale a des répercussions non seulement sur l'Indonésie, mais également sur d'autres pays. Toutefois, la performance de l'industrie et de l'économie nationale a tout de même enregistré une performance positive. C'est ce qu'a déclaré mercredi le chef de l'Agence de développement et de recherche industrielle, BPPI, du ministère de l'Industrie de Ngakan Timur Antara. Le ministère de l'Industrie a également noté que le secteur de l'industrie de traitement des produits autres que le pétrole et le gaz a enregistré une performance positive au cours de la période 2015-2018 avec une croissance moyenne de 4,87%. Ce secteur reste le principal contributeur au PIB national de 17,66% en 2018. Ngakan Timur Antara a déclaré que, avec la contribution constante la plus élevée, le gouvernement s'est engagé à stimuler davantage le développement de l'industrie manufacturière grâce à la mise en œuvre de la feuille de route Making Indonesia 4.0. Il a ajouté que les grandes aspirations de la route font que l'Indonésie entre dans les rangs de 10 pays qui ont la plus forte économie au monde en 2030. Ngakan Timur Antara se réfère aux projections à long terme publiées par Standard Chartered. L'Indonésie devrait pouvoir entrer dans la quatrième plus grande économie du monde en 2030 avec un produit intérieur brut atteignant 10 100 milliards de dollars américains. La première position est occupée par la Chine avec un PIB nominal de 64,2 milliards de dollars américains, suivi par l'Inde avec 46,3 milliards de dollars et les États-Unis avec 31 milliards de dollars américains. Dans ce classement projeté, l'Indonésie est capable de surpasser la Turquie, le Brésil, l'Égypte, la Russie, même le Japon et l'Allemagne. La notation est basée sur la valeur nominale du produit intérieur brut, basée sur la parité de pouvoir d'achat. Un économiste de Standard Chartered a déclaré que leur projection à long terme reposait sur un principe important, à savoir que la part du pays dans le PIB mondial devait fusionner avec sa part dans la population mondiale tirée par la convergence du PIB par habitant entre pays développés et en développement. En 2018, la part de l'Asie dans le PIB mondial a atteint 28% contre 20% en 2010. Toutefois, ce chiffre devrait rebondir à 35% en 2030. Cher ami, c'était mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Bunga Citra Lestari intitulée Wanita Terbahagia ou en français La femme la plus heureuse. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie pour tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site www.voynews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le magazine culturel visitant la falaise Koja à la ville Tangerang, Banten. La falaise Koja, Cache de Godzilla, c'est le nom du peuple de Tangerang pour le lieu touristique de la falaise Koja. Le site touristique situé dans la région Chisuka du district Soleil en région Tangerang offre une vue très exotique car la forme des rochers est très semblable à celle des grands murs. De plus, il y a un étang avec de l'eau bleue et de belles rizières sous la falaise. Rendre cette attraction touristique beau et charmant et ayant l'air frais. La falaise Koja est une ancienne zone d'extraction de sable qui n'est plus active. À la suite du processus d'extraction de sable par les résidents locaux et des falaises calcaires laissées au hasard et qui ont l'air magnifiques. Selon les habitants de la localité, la cache de Godzilla est mentionnée à cause de la forme de l'une des falaises calcaires ressemblant à Godzilla. Bien que près de ces attractions touristiques se trouvent de gratte-ciel et situés non loin de Jakarta, cela ne réduit pas la beauté et la fraîcheur de la falaise Koja. Même la falaise Koja est le meilleur endroit pour profiter de la beauté du lever du soleil le matin. À la falaise Koja, les visiteurs peuvent prendre des photos avec différents endroits. En dehors des pierres qui ressemblent à Godzilla, il existe encore des falaises rocheuses qui ressemblent aux portes d'entrée et qui peuvent être de bons spots photos à partager avec Instagram. Satisfait en prenant des photos au sommet de la falaise, vous pouvez descendre car il y a des rizières, des champs de légumes et des formations rocheuses plus petites. En outre, il existe des petits pavillons pouvant servir d'abri pendant la journée. Le prix du billet d'entrée à la falaise Koja n'est que de 3 000 rupiah par personne. Pour un stationnement en moto, il en coûte 3 000 rupiah et 5 000 rupiah pour la voiture. Pour vous rendre à la falaise Koja, vous pouvez utiliser le transport public, notamment le train depuis la gare de Tanah Abang et descendre à la gare de Tiga Raksa. Le billet de train coûte environ 5 000 rupiah pour un trajet d'environ 1h30. Une fois arrivé à la gare de Tiga Raksa, vous pouvez utiliser un taxi-moto en payant 5 000 rupiah avec un temps de parcours d'environ 40 minutes. Cher ami, c'était le magazine culturel.
Beruang kau ragukan kesungguhan cintaku. Buang semua jauh-jauh dari pikiranmu. Yang ku tahu aku hanya inginkan dirimu, hanya tada yang seperti dirimu membuat hidupku lebih sempurna dan takkan pernah ada yang seperti dirimu hanya dirimu hanya dirimu.
Voice of Indonesia.
Voilà la chanson de Dika, intitulée Hanya Dirimu, ou en français Il n'y a que toi. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde. Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en beau titre, la bande dessinée Nusa 5 sera immédiatement publiée en Asie du Sud-Est. Une bande dessinée de dessinateurs de bande dessinée indonésienne a été immédiatement traduite en anglais et commercialisée dans des librairies en Asie du Sud-Est. La bande dessinée est la bande dessinée Nusa 5, une bande dessinée réalisée par un dessinateur de bande dessinée indonésienne, Sweta Kartika. Cette bande dessinée parle de cinq jeunes des cinq plus grandes îles d'Indonésie qui s'unissent pour lutter contre les forces du mal qui veulent détruire l'archipel. Les cinq jeunes étaient Ranga Wiraprakoso de Java, Kanaya Mutia de Sumatra, Rimba Kalamantana de Kalimantan, Renata Mokoginta de Sulawesi et George Sa de Papouasie. Dans la bande dessinée Nusa 5, ces cinq jeunes Indonésiens utilisent la diversité culturelle dont ils disposent pour protéger la terre. La bande dessinée Nusa 5 est une collaboration entre l'Indonésie et le Japon, notamment entre les entreprises de création locale Padma Pusaka Nusantara et l'éditeur japonais Shogakukan Asia, une filiale de l'éditeur Shogakukan qui a publié des bandes dessinées célèbres telles que Détective Conan et Inuyasha. Le directeur de Shogakukan Asia, Bunsho Kajiya, a fait l'éloge de cette bande dessinée. Il espère également que cette bande dessinée pourra être bien accueillie par le peuple indonésien ainsi que par l'Asie. Cette bande dessinée Nusa 5 est riche d'éléments de la diversité culturelle indonésienne. Le thème culturel qui a été le principal soutien de cette bande dessinée a été délibérément désigné par Sweta. Selon elle, l'Indonésie est riche de cultures et de traditions diverses, dont la forme varie et dont on peut être fier. Sweta Kartika espère également que ses lecteurs pourront apprécier les différences grâce à cette bande dessinée. Car en célébrant et en respectant bien les différences, nous aurons une véritable force. Cher ami, c'était l'Indonésie en couleur.
Andai aku mampu membalasmu semua perbuatanmu itu, pasti dari dulu tak akan ku rasa pahit yang ku terima. Aku memilihmu jadi kekasihku, tapi yang terjadi kau sakiti aku. Dunia sedang tak bersahabat, ingin ku bawa hancur bersamaku. Dunia sedang tak bersahabat, akan ku dapat lebih darimu, lebih darimu. Tapi yang terjadi, kau sakiti aku. Dunia sedang tak bersahabat, ingin ku bawa hancur bersamaku. Dunia sedang tak bersahabat, akan ku dapat lebih darimu, lebih darimu. Wow. akan ku dapat lebih darimu, lebih darimu.
Voilà la quatrième chanson intitulée Lebih darimu, ou en français Plus de toi, chantée par Dewi. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voynews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Cette fois, nous allons écouter la chanson de Naf.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs de Voice of Indonesia, bonsoir. Le magazine musical d'aujourd'hui va vous donner la nouvelle chanson du groupe Naf intitulée Kau Masih Kekasihku. Naf est un groupe de la ville de Bandung, Java de l'Ouest, formé en 1998. Il est actuellement composé de Arda comme chanteur, Ade comme guitariste, Ode comme bassiste et Hilal comme batteur. Jusqu'à présent, Naf a publié cet album et plusieurs chansons. Presque toutes les chansons ont une réponse positive des auditeurs indonésiens, y compris la chanson intitulée Kau Masih Kekasihku. La chanson Kau Masih Kekasihku, ou en français était toujours mon bien-aimé, fait partie de l'album de Isyarat Hati, sorti en 2006. Les paroles de la chanson parlent de quelqu'un qui s'est séparé de son amant à cause d'un malentendu. Mais il aime toujours son amant. Il espère restaurer le temps et améliorer la situation avec son amant. Bon, chers auditeurs, je vous présente ensuite la chanson de Naf, dont le titre est « Kau Masih Kekasihku » ou en français « T'es toujours mon bien-aimé ». Bonne écoute.
Jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku, engkau masih kekasihku. Tak bisa ku tahan laju angin untuk semua kenangan yang berlalu hembuskan sepi. Merobek hati, meski raga ini tak lagi milikmu, namun di dalam hatiku sungguh engkau hidup entah sampai kapan. Ku tahankan rasa cinta ini jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku, engkau masih kekasihku. Dan ku berharap semua ini bukanlah kekeliruan seperti yang kukira seumur hidupku. Akan menjadi doa untukmu jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu, masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku, engkau masih kekasihku, masih kekasihku. Andai saja waktu bisa terulang kembali,
akan kuserahkan hidupku di sisimu. Namun ku tahu itu takkan mungkin terjadi. Rasa ini menyiksaku, sungguh-sungguh menyiksaku.
Chers auditeurs, c'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie pour tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. On se retrouvera demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.